Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
De l'Assemblée de Jérusalem aux 21 conciles œcuméniques. Après l'Assemblée de Jérusalem, le problème de l'accueil des païens dans l'Église est considéré comme résolu. Les Actes des Apôtres ne reviendront plus sur cette question. C'est une preuve a posteriori de l'autorité des conciles dans l'Église. Même si leurs décisions mettent souvent du temps à s'imposer, elles font autorité, il y a un avant et un après. Il y a beaucoup de leçons à tirer de l'Assemblée de Jérusalem. Elle nous dit d'abord quelque chose de très important sur la nature de l'Église. L'unique Église du Christ est une, mais avec une origine double. En elle, la séparation que Dieu lui-même avait instaurée entre Juifs et païens, entre le peuple, comme dit la Bible, et les nations, cette séparation est dépassée. Elle ne l'est pas par rejet du peuple que Dieu avait choisi, comme on se l'est trop souvent imaginé, mais par intégration des païens au sein de ce peuple, ou bien, pour parler le langage botanique de saint Paul, par greffe d'un olivier sauvage, les païens, sur un olivier cultivé, les juifs. On trouve cela au chapitre 11 de l'Épître aux Romains, à partir du verset 16. Cette origine double de l'Église est représentée sur une mosaïque du 5e siècle conservée dans l'église Sainte-Sabine à Rome, sur l'Aventin. On y voit deux figures féminines appelées respectivement l'Église issue de la circoncision et l'Église issue des nations. Mais l'une et l'autre sont la même Église, et si on en doutait, eh bien il suffit d'observer que leur regard est dirigé dans la même direction. Elles regardent ensemble vers l'autel de l'Eucharistie, là où le Christ, des Juifs et des païens, a fait un seul peuple, les réunissant tous deux en un seul corps par la croix. Ces expressions sont de l'Épître aux Éphésiens 4, 16. En abolissant l'antagonisme qui les dressait l'un contre l'autre. On voit par là que le rôle des conciles n'est pas de modifier la foi ou d'inventer des dogmes nouveaux, mais bien de mettre au jour des aspects de la foi de toujours qui étaient mal compris ou contestés. Lorsque le pape Jean XXIII a convoqué le concile Vatican II, il a précisé son objectif en utilisant le mot italien « aggiornamento » et ce mot a deux sens. Le premier que tout le monde a retenu aussitôt est « mise au jour ». Mise à jour. Il s'agissait de dépoussiérer l'Église, de la mettre à jour, comme votre ordinateur périodiquement reçoit des mises à jour pour continuer à bien fonctionner. Ce sens n'est pas faux, mais il y en a un autre, tout aussi important. « Aggiornamento » veut dire non seulement « mise à jour », mais aussi « mise au jour ». Mise au jour de ce qui était caché ou oublié, recouvert par l'habitude, la paresse, les préjugés, les disputes, mais qui fait partie du trésor de l'Église. À cet égard, le Concile Vatican II, comme tous les conciles, n'est pas tant un concile qui innove qu'un concile qui retrouve des choses oubliées. On peut dire cela de l'Assemblée de Jérusalem. Elle a retrouvé un trésor oublié. Ce trésor que nous trouvons déjà dans l'appel d'Abraham au livre de la Genèse. « Par toi, dit Dieu, se béniront toutes les familles de la terre. » C'est au chapitre 12 de la Genèse. On peut lire cette phrase de manière plus littérale. « Par toi seront greffées toutes les familles de la terre. » Et on trouve déjà l'image botanique utilisée beaucoup plus tard par saint Paul dans l'Épître aux Romains. « Toi, l'olivier sauvage, tu as été greffé pour bénéficier de la sève de l'olivier cultivé. » Romains 11, 17. Nous avons lu la fois précédente le discours que l'apôtre Jacques a prononcé à l'Assemblée de Jérusalem. Il aurait pu citer la Genèse et souligner l'image de la greffe. Il a choisi de citer plutôt le prophète Amos qui annonçait le jour où l'humanité entière rechercherait le Dieu d'Israël. C'est une constante dans le langage de l'Église. Elle ne cesse de souligner le lien entre les deux testaments et par le fait même la cohérence du dessein de Dieu. Et elle le fait avec l'autorité que lui a donnée son Seigneur pour interpréter les Écritures, comme lui-même le faisait auprès des pèlerins d'Emmaüs. En apparaissant aux onze, le soir de Pâques, il ouvre leur esprit à l'intelligence des Écritures, nous dit saint Luc au chapitre 24, verset 45. Les assemblées de l'Église et les conciles qui jalonnent son histoire ne se substituent pas à l'Écriture, à la parole de Dieu, mais en délivrent la signification pour chaque époque. En l'occurrence, le texte d'Amos cité par Jacques est loin d'être parfaitement clair, et on pourrait accuser Jacques de le solliciter un peu trop pour les besoins de son discours. Mais c'est une autre fonction apostolique, à la suite de Jésus qui a déjà pratiqué cela, il s'agit de délivrer le sens caché des Écritures. Techniquement, on appelle cela l'interprétation authentique d'un texte. Ça ne veut pas dire que d'autres lectures ne seront plus possibles, mais ça veut dire qu'elles ne pourront pas entrer en contradiction avec la lecture qui a été authentifiée par les apôtres et leurs successeurs. Le Concile de Trente, par exemple, a authentifié la lecture de la parole de Jésus « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis » en Jean chapitre 20, en disant que par ces paroles, le Seigneur a instauré le sacrement de pénitence et a donné aux apôtres et à leurs successeurs le pouvoir et la mission de célébrer ce sacrement du pardon des péchés. J'en viens maintenant à la formule la plus célèbre et la plus stupéfiante de l'Assemblée de Jérusalem. « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». Quelle audace ! Certes, on mentionne l'Esprit Saint en premier, mais on a l'air de mettre les apôtres et leurs successeurs sur le même plan que l'Esprit Saint. En réalité, on n'établit pas d'équivalence entre les deux, mais on affirme avec intrépidité que ce que l'Église dit et prescrit solennellement vient de l'Esprit Saint et qu'elle ne le tire pas d'elle-même. Elle ne le constate pas a posteriori, mais dans le processus même de la décision prise, l'Esprit Saint est à l'œuvre. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, l'indéfectibilité de l'Église. Et il faut toujours se souvenir que l'affirmation par l'Église de sa propre indéfectibilité n'est pas un acte de foi de l'Église en elle-même, mais un acte de foi de l'Église au Christ qui lui a promis l'Esprit Saint et en ce même Esprit Saint qui demeure en elle jusqu'à la fin des temps. Cette certitude se marque par les formules employées, toujours substantiellement les mêmes. C'est ainsi que le Concile africain de l'an 252, convoqué par Saint Cyprien, évêque de Carthage, introduira ses décisions par la formule « Nous avons jugé bon sous l'inspiration de l'Esprit-Saint ». Un autre point, la décision de l'Assemblée de Jérusalem n'était pas en soi dogmatique, mais disciplinaire. En d'autres termes, elle ne portait pas sur ce qu'il faut croire, mais sur ce qu'il faut faire. Cependant, si l'on se souvient de l'enjeu, qui est la compréhension du projet de Dieu sur les Juifs et les païens, et on voit bien que la frontière entre ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire n'est pas tracée au cordeau. Ou plus exactement, que la foi entraîne logiquement avec elle des manières de se comporter, une morale, un agir concret. Un dernier point enfin, après l'Assemblée de Jérusalem, les actes des apôtres ne reviennent pas sur la question de ce qu'on doit demander aux chrétiens issus du paganisme. Cela veut dire qu'on considère que la question est réglée une fois pour toutes. Il pourra toujours y avoir des oublis, des contestations, des chamailleries, mais quelque chose de définitif a été posé qui sert désormais de norme. C'est déjà le propre des conciles œcuméniques. Le concile de Nicée, premier en date des conciles œcuméniques, qui s'est tenu en 325, forme un ensemble avec trois autres conciles. Celui de Constantinople en 381, nous en avons parlé l'année dernière, celui d'Éphèse en 431, celui de Chalcédoine en 451. Ce sont les quatre conciles fondateurs, comme nous le verrons, qui gardent une place de choix dans l'histoire. Les deux premiers, Nicée et Constantinople, portent sur la foi trinitaire. Les deux autres, Éphèse et Chalcédoine, essaient de répondre à la question « Qui est le Christ ?» Puis viendront deux autres conciles, l'un moins important mais également œcuménique, le deuxième concile de Constantinople, en 553, l'autre tout à fait décisif pour la foi au Christ, le troisième concile de Constantinople, en 680-681, qui ne répond plus à la question « Qui est le Christ ?», mais plutôt à la question « Comment le Christ nous a-t-il sauvés ?» À ces six premiers conciles s'en ajoute un septième, le plus proprement oriental peut-être, parce qu'il a répondu à une crise de l'Orient chrétien, la crise iconoclaste, qui portait sur la légitimité des saintes images. C'est le deuxième concile de Nicée en 787. Avec ces sept conciles se clôt la liste des conciles dits de l'Église indivise, c'est-à-dire les conciles reconnus comme œcuméniques aussi bien par les Églises d'Orient que par celles d'Occident. Mais si l'on considère l'ensemble des grandes confessions chrétiennes, les choses sont un peu plus complexes. Je cite à ce propos un historien de l'Église. L'Église orthodoxe ou grecque s'en tiendra à la liste des 7 conciles écuméniques. Elle n'en admettra pas d'autres. L'Église anglicane sera favorable à la liste des 4 premiers conciles, en excluant les suivants. À la suite de Luther et de Calvin, les églises de la Réforme traiteront avec vénération les 4 premiers conciles écuméniques, mais elles ne leur reconnaîtront pas une autorité propre. Elles les vénéreront simplement parce que leur enseignement est considéré conforme à l'Écriture. Durant un certain temps, l'Église romaine restera attachée, comme l'Église orthodoxe, à la liste des 7 conciles. L'admission du 4e concile de Constantinople, 869-870, constitue un cas à part, puisque 4 conciles réunis par la papauté au palais du Latran à Rome au 12e, puis 4 conciles réunis par la papauté au palais du Latran à Rome au 12e et 13e siècle, après la rupture de l'Église byzantine ou orthodoxe, prendront dans la suite les 9e, 10e, 11e et 12e classes dans la liste des conciles écuméniques. Ce sont les conciles de Latran I, 1123, Latran II, 1139, Latran III, 1179 et Latran IV, 1215. Il en sera de même des conciles de Lyon I, 1245 et Lyon II, 1274, ainsi que du concile de Vienne, 1311-1312, qui deviendront les 13e, 14e et 15e conciles écuméniques. Dans la suite, le concile de Constance et le concile de Bâle, Ferrare, Florence, 1431-1442, qui forment un tout, seront également comptés au nombre des conciles écuméniques et prendront la 16e et la 17e place. Les 3 dernières places, 18e, 19e et 20e, avant le concile de Vatican II, reviendront au concile de Latran V, 1512-1517, au concile de Trente, 1545-1563, et au concile de Vatican I, 1869-1870. Alors cette liste est un peu complexe, on peut en retenir 2 choses. Tout d'abord, en laissant de côté quelques conciles de moindre importance, les conciles écuméniques se laissent assez facilement regrouper en 4 grands groupes. Il y a d'abord les 7 conciles de l'Église indivise, de Nicée I à Nicée II, puis les conciles médiévaux, essentiellement les 4 conciles du Latran et les 2 conciles de Lyon, puis les conciles de la fin du Moyen-Âge et de la Réforme, 4 conciles de Constance à Trente, puis les 2 conciles du Vatican. Donc, 4 groupes de grands conciles. Deuxièmement, la plupart des conciles sont incompréhensibles si on ne les resitue pas dans leur époque. L'histoire culturelle et politique est inséparable de l'histoire de l'Église. C'est ce que nous avons essayé de faire pour les conciles de Nicée et Constantinople I, et c'est ce que nous ferons pour les conciles ultérieurs. Cela leur donnera d'ailleurs, je l'espère, un goût supplémentaire.